Bella Jelima, Amicha Anibaradi, Kafunini Tanlasi,
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Bio à ce micro au sommaire de cette édition du mardi 29 octobre 2024. Après Donald Trump au Madison Square Garden, Kamala Harris arrive aujourd'hui à Washington pour son discours de clôture de campagne. La presse américaine dans la campagne présidentielle, neutre ou partisane?
Il y a une dimension rituelle, en fait, dans cette prise de position dans la campagne. Ça ne veut pas dire que c'est un soutien indéfectible de la part du comité éditorial.
Sébastien Moore, spécialiste des civilisations américaines, tentera de répondre à cette question. Pour cette présidentielle américaine du 5 novembre, la bataille pour le contrôle du Sénat sera également au cœur du scrutin. Au Sénégal, le début de la campagne pour les législatives du 17 novembre, entaché de violence. Ne manquez pas notre page fort ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Bonsoir à tous, bienvenue. La vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump travaillent d'arrache-pied pour gagner les derniers électeurs indécis et indépendants de leurs partisans de base respectifs afin qu'ils votent tôt ou se présentent dans les bureaux de vote le 5 novembre. Deux jours après ce rassemblement légendaire, au légendaire Madison Square Garden, l'ancien président Donald Trump se rend aujourd'hui en Pennsylvanie et plus précisément à Allentown. La candidate démocrate, elle, est attendue ce soir dans la capitale américaine. Et pour les détails, nous allons tout de suite sur le terrain retrouver John Lindon, qui est à la place de l'ellipse qui se trouve entre la Maison-Blanche et le National Mall, où Kamala Harris va s'adresser à ses partisans et au peuple américain. Bonsoir, John. Bonsoir, John.
Bonsoir, Jean-Roger, vous m'entendez?
Nous vous entendons 5 sur 5. À quoi devrait-on s'attendre ce soir, John, à la place de l'ellipse?
Alors, il faut dire, Jean-Roger, que les organisateurs disent attendre pas moins de 20 000 personnes à cette adresse de Kamala Harris ce soir, lorsqu'il sera exactement 19h15 ici à Washington. Kamala Harris devrait profiter de cette occasion pour donner un dernier coup d'accélérateur à sa campagne. Elle devrait, selon des informations, demander aux Américains de tourner la page de l'ère Trump et de retrouver leur optimisme. Celle qui a remplacé Joe Biden comme tête de liste du Parti démocrate à la présidentielle va, selon sa campagne, essayer de mettre en avant les deux visions opposées de l'Amérique proposées aux électeurs et incarnées par deux personnes. Deux personnes, c'est-à-dire elle, Kamala Harris, qui s'intéresse aux problèmes du peuple, et Donald Trump, qui ne pense qu'à ses propres intérêts. Ce soir, Kamala Harris aura donc à cœur de convaincre les derniers indécis, notamment au sein des minorités noires et latino. À l'heure qu'il est, le vote anticipé se déroule déjà dans plusieurs États, y compris les États clés, et pas moins de 40 millions de personnes, Jean-Roger, ont déjà voté.
Oui, John, Kamala Harris tient donc ce discours au même endroit où Donald Trump avait tenu un autre discours, c'était le 6 janvier 2021.
Tout à fait, Jean-Roger, le républicain avait en effet tenu un discours au même endroit le 6 janvier 2021. Il appelait alors ses partisans à se battre contre les résultats de l'élection présidentielle qu'il venait alors de perdre. Des partisans de Donald Trump avaient à l'époque des faits envahi quelques heures après le siège du Congrès où les parlementaires américains étaient réunis pour certifier l'élection de Joe Biden. Presque 4 ans plus tard, revoici Donald Trump, candidat cette fois-ci encore à la présidence. Trump et Harris sont au coude à coude dans les sondages, aussi bien au plan national que dans les États clés. D'ailleurs, j'ai rencontré un citoyen américain pour nous dire ce qu'il pense du processus électoral. C'est un fan de Harris, mais visiblement fâché.
J'aurais été un partisan de Harris dans une année normale, et même jusqu'à il y a une semaine. J'étais un partisan de Harris. Mais entre mon travail pour libérer Gaza et la Palestine et l'occupation d'Israël, et aussi mon travail avec les peuples indigènes qui les annulent tous, exigeant une reconnaissance fédérale et entendant leur histoire, ils sont de la région de la baie de San Francisco. Et entendre comment Kamala Harris lui a dit à maintes reprises que la souveraineté indigène n'était pas sa responsabilité en tant que sénatrice. Entre ces deux choses, je ne peux pas, en toute conscience, voter pour quelqu'un qui piétine mes amis, qui tue des membres de ma famille et qui tue des innocents en finançant Israël. Je ne voterai donc pour aucun des deux candidats cette année. Et peut-être qu'une victoire de Trump est ce qu'il faut pour faire comprendre aux démocrates qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent et s'attendre à ce que nous votions pour eux. Nous avons un cerveau. Nous pouvons penser par nous-mêmes et l'establishment du parti doit disparaître.
Alors John, Kamala Harris sera donc ici à Washington ce soir. Un mot sur le programme de Donald Trump?
Oui, Donald Trump ne dort pas. Il poursuit lui aussi sa campagne. Il prononcera un discours dans sa ville, dans sa villa à Mar-a-Lago en Floride. Il se rendra ensuite à Allentown en Pennsylvanie, peut-être le plus important des sept états clés de cette élection présidentielle. Hier déjà en Géorgie, un autre état clé dans cette présidentielle. Donald Trump a fait un clin d'œil à l'électorat religieux. Très important en Géorgie, pour ces prochains jours, les deux candidats vont sûrement se croiser dans ces sept états clés qui détermineront, Jean-Roger, l'issue du scrutin du 5 novembre.
Merci, John Lindon. Nous revenons aujourd'hui sur cette spécificité américaine. Les grands titres de la presse ont l'habitude de soutenir un candidat à l'élection présidentielle. À la surprise générale cette année, à seulement quelques jours de l'élection, le quotidien Le Washington Post a décidé de ne soutenir aucun candidat. Pour mieux comprendre ce changement et ses implications, Claire Morin-Gibou a joint Sébastien Mohr, maître de conférence en culture et société des États-Unis à l'Université de Lorraine.
Si on se fie à ce qui a été dit dans l'éditorial qu'a publié le Washington Post, c'est de revenir à une tradition qui était de la neutralité par rapport aux jeux politiques et par rapport aux campagnes électorales. Alors c'est un peu curieux dans la mesure où le premier endorsement du Washington Post, il date de 1976 et c'était celui de Jimmy Carter. Donc il me semble que c'est quand même une rupture avec ce qui a été la pratique du Washington Post. Je souligne aussi que depuis 1976, le Washington Post n'a soutenu que des candidats démocrates. Aucun candidat républicain n'a été soutenu. Donc on peut quand même interpréter cette décision comme le refus de soutenir Kamala Harris. Ensuite, moi je pense qu'il y a une raison financière et stratégique extrêmement claire de la part de Jeff Bezos de mettre un terme à cette tradition. Je pense que Jeff Bezos, comme le propriétaire du LA Times, Patrick Soon-Shiong, ont des intérêts financiers et économiques absolument colossaux et pressentent que, dans le cas d'une victoire de Trump, le fait que leurs journaux aient un positionnement extrêmement critique, extrêmement virulent à l'encontre de l'administration de Trump et de Trump ensuite lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche, que ça pourrait leur nuire à leurs intérêts financiers. Donc je pense que la vraie raison, c'est une raison purement cynique de la part de milliardaires qui ont sauvé ces deux journaux de la faillite financière, mais qui maintenant en fait viennent un peu réclamer leur dû.
Alors c'est une tradition typiquement américaine, hein, parce que dans la presse francophone en général, les journalistes ne doivent pas, ne prennent pas parti.
Oui, effectivement, c'est une tradition qui est spécifique aux États-Unis. C'est une décision qui est prise par le comité éditorial, donc ça il faut bien aussi le rappeler, et pas le journal dans son entier. Il y a une dimension rituelle en fait dans cette prise de position dans la campagne. Ça ne veut pas dire que c'est un soutien indéfectible de la part du comité éditorial au candidat qui est choisi, mais c'est une façon en fait de réaffirmer l'identité et les valeurs du journal, de faire le point en fait avec le lectorat et l'électorat, donc sur les valeurs que le journal veut incarner, et donc sur le candidat qui, pour le comité éditorial, incarne au mieux ces valeurs-là.
Et est-ce que pour vous, ce changement de décision, est-ce qu'il montre une mutation de la presse aujourd'hui?
Je crois que c'est un peu trop tôt pour le dire, parce qu'il faudrait voir sur le long terme, est-ce que ce sont des décisions auxquelles ces journaux-là vont se tenir dans les prochains cycles politiques, donc par exemple les midterms de 2026, Mais je pense que il faut être prudent. Là, on réagit à chaud à cette actualité. Et à mon avis, avant de pouvoir y voir plus clair, il faut voilà, laisser passer un peu de temps et voir quel va être le résultat de l'élection présidentielle.
C'était Sébastien Mau, auteur du livre « Onde de choc, histoire médiatique et politique de la radio conservatrice aux États-Unis ». Lorsque les électeurs américains se rendront aux urnes le 5 novembre, ils choisiront qui contrôlera le Congrès des États-Unis et décideront de qui de l'ancien président Donald Trump ou la vice-présidente Kamala Harris sera à la Maison-Blanche. La correspondante de VOA au Congrès, Catherine Jimson, se penche sur les principales élections sénatoriales dans tout le pays. Le récit est de Nani Talani.
Talk to voters and make sure they're voting all the way down the ballot.
Donna West, militante démocrate de longue date, ne se contente pas de faire campagne pour la vice-présidente Kamala Harris depuis son garage de Las Vegas au Nevada. Elle dit qu'elle se bat aussi pour que la sénatrice démocrate Jackie Rosen conserve son siège au Sénat américain.
Plus nous sortirons et parlerons aux électeurs, plus je serai confiante dans le fait que nous maintiendrons Jackie au Sénat et que nous prendrons la majorité.
Le Nevada est l'un des rares États américains à connaître des élections sénatoriales compétitives qui détermineront qui, des démocrates ou des républicains, détiendront la majorité. Les démocrates détiennent actuellement une courte majorité avec 51 sièges. L'adversaire de Rosen, Sam Brown, qui a été blessé lors de son service en Afghanistan, affirme qu'il est temps que les choses changent à Washington.
Nous avons une économie à remettre en place. Il y a des choses que nous pouvons faire, du logement à notre politique énergétique. Nous devons nous occuper de la situation à la frontière.
Au Texas, qui est traditionnellement un bastion républicain, les sondages montrent que la course est serrée entre le démocrate Colin Allred et le sénateur républicain Ted Cruz. Lors de leur débat de la semaine dernière, M. Allred a interrogé M. Cruz sur l'assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis.
Cette élection est sur sa responsabilité. On ne peut pas juste être patriote quand son camp gagne.
Ted Cruz a réfuté cet argument.
Vous ne l'entendez pas parler des émeutes d'Antifa et de Black Lives Matter qui ont brûlé des villes à travers ce pays.
Dans l'État rural du Montana, le sénateur démocrate John Tester est confronté au républicain Tim Sheehy. Lors de la convention nationale démocrate plus tôt cette année, un délégué a déclaré que de nombreux électeurs de l'État pourraient voter pour l'ancien président et candidat républicain Donald Trump, mais qu'il maintiendra un démocrate au Sénat. Mary Jo est une électrice du Montana.
Le sénateur Tester a tenu ses promesses pour nous en ce qui concerne la loi agricole et nous sommes bien trop intelligents pour laisser passer cela.
Mais lors de la convention nationale républicaine, les délégués ont déclaré que les votes libéraux de M. Tester ne convenaient pas à l'État. Suzanne Renault, électrice du Montana.
Tim Sheehy est un vrai vétéran. C'est un héros de guerre. C'est un Navy SEAL.
Le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis pourrait également basculer, passant des mains des républicains à celles des démocrates. Les 435 sièges de la Chambre doivent être réélus cette année.
Les jeunes électeurs qui participent cette année à l'élection présidentielle américaine s'appellent la génération Z. Ils sont âgés de 18 à 27 ans environ, qu'il s'agisse d'apprendre à voter ou de solliciter des soutiens en faisant du porte-à-porte. Ils sont nombreux à s'engager dans le processus civique du vote. Un reportage de Laurel Bauman de la VOA, le récit est de Lionel Gaïma.
Thank you, our first mock voter.
Les étudiants du Montgomery College de Rockville dans le Maryland ont récemment mis en place un isoloir fictif avec des échantillons de bulletins de vote et ont invité des responsables électoraux à dispenser une formation sur le scrutin. Cette initiative vise à préparer les jeunes électeurs à remplir leurs devoirs citoyens cette année. Brittany Green est une des organisatrices de ce vote fictif.
L'événement d'aujourd'hui avait pour but d'éduquer les électeurs et de permettre aux gens de voir les bureaux de vote, de voir ce qu'ils vont vivre dans les bureaux de vote.
Des participants comme Akia Damang ont apprécié.
Je voulais juste voir ce que cela fait de voter pour la première fois. C'est la première fois que je vais voter pour l'élection présidentielle et je voulais voir la procédure.
Ces jeunes électeurs s'intéressent à toute une série de questions. Nandi Ijefuka, participant du sondage.
Les questions financières avec la dette du pays, je n'y comprends pas grand-chose. Mais si je regarde un gros chiffre, je ne comprends pas pourquoi elle est si élevée.
Libby McClayton, organisatrice du sondage fictif.
Je dirais que le changement climatique est important, ainsi que les droits reproductifs.
Mambi Musonda, organisateur politique étudiant.
Je pense que pour beaucoup des gens, le rôle de l'Amérique dans le monde est une question très importante, en particulier pour les jeunes électeurs.
Dans la course à la Maison-Blanche, entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, la plupart des étudiants que nous avons interrogés n'ont pas voulu révéler pour qui ils allaient voter. Mais on s'attend à ce que l'État du Maryland, bastion des démocrates, choisisse Kamala Harris. Nous avons donc demandé à Jacqueline Hahn, présidente des Jeunes Républicains de Géorgie, quelles sont les questions importantes pour ses camarades républicains.
Entre le logement, l'inflation, les prix des produits alimentaires et de l'essence qui ne cesse d'augmenter, il est hors de prix de vivre et fonder une famille à l'heure actuelle.
Et comment les campagnes doivent-elles s'y prendre pour atteindre ces jeunes électeurs? Écoutons encore Jacqueline Hahn.
Vous n'atteindrez pas un électeur de la génération Z par le biais de contacts téléphoniques ou d'un appel parce qu'il a probablement un bloqueur de spam sur son téléphone ou qu'il ne répondra tout simplement pas à un numéro qu'il ne connaît pas. Nous sommes une génération de réseaux sociaux. Tout ce que nous regardons se trouve sur les réseaux sociaux.
Harry Sisson, influenceur démocrate sur les réseaux sociaux, est du même avis.
Je dirais que la principale application pour les jeunes est probablement TikTok. C'est ma plateforme principale. Je pense que c'est surtout parce que c'est digeste. Beaucoup de segments d'informations que l'on voit sur TikTok durent entre 30 et 60 secondes.
Malgré toute la puissance de TikTok et autres Instagram, Camila Alfonso Mesa, partisane de Kamala Harris, fait du porte-à-porte à Hendon en Virginie pour encourager les gens à voter pour sa candidate.
Hey, definitely Harris supporters.
Selon elle, depuis que Kamala Harris a remplacé le président Joe Biden dans la course à la présidence, cela a donné un nouvel élan et a revigoré les jeunes démocrates.
J'ai vu un grand changement dans l'énergie et l'enthousiasme depuis que la vice-présidente est devenue la candidate.
Alfonso Mesa pense que la génération Z, qui compte plus de 40 millions de jeunes, pourrait donc faire la différence lors des élections générales du 5 novembre aux États-Unis.
Restez avec nous sur VOA Afrique. Dans quelques instants, l'actualité en Afrique et dans le reste du monde. Bonsoir à tous. En Guinée, le régime militaire a mis sous observation les principaux partis, déjà grandement réduits à l'impuissance, et en a dissous 53 autres dans une grande entreprise de nettoyage politique. Le ministère de l'administration du territoire parle de la nécessité d'assainir l'échiquier politique. Parmi les partis placés sous observation figurent les principaux partis dans l'opposition à la junte, le Rassemblement du peuple de Guinée d'Alpha Condé, président civil renversé par les militaires, l'Union des forces démocratiques de Guinée et l'Union des forces républicaines. Les dirigeants de ces partis, je vous le rappelle, sont en exil. La maire adjointe de Bamenda, la capitale de la région camerounaise anglophone du Nord-Ouest, en proie à un conflit séparatiste, a été enlevée et tuée par des hommes armés, a annoncé lundi soir à la télévision d'État. L'élu a été enlevé le 26 octobre à 17h30 dans sa résidence et son corps sans vie a été découvert baignant dans son sang aux premières heures de ce lundi matin, a indiqué la radio en citant un communiqué du préfet local. La police du Mozambique a tué au moins 11 personnes et en a blessé plus de 50 autres lors de violences post-électorales, a affirmé aujourd'hui l'organisation Human Rights Watch. Des manifestations ont secoué ce pays d'Afrique australe depuis que le parti Frelimo au pouvoir depuis 1975 a été déclaré vainqueur des élections du 9 octobre. Des centaines de partisans de l'opposition sont descendus dans la rue la semaine dernière, donnant lieu à des affrontements avec la police anti-émeute.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Hezbollah libanais a nommé son secrétaire général adjoint, Naïm Kassem, 71 ans, pour succéder à Hassan Nasrallah, à la tête de la milice chiite, a annoncé aujourd'hui cette milice, dans un communiqué, Hassan Nasrallah a été tué fin septembre par l'armée israélienne dans une frappe sur Beyrouth. Une frappe israélienne nocturne sur un immeuble a fait une centaine de morts ce mardi, selon les secours, dans le nord de la bande de Gaza, où Israël mène depuis plus de trois semaines des opérations aériennes et terrestres contre le Hamas. La veille, le Parlement israélien a voté une loi interdisant les activités de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Sans transition, nous pensons au dossier de ce jour. Au Sénégal, la campagne pour les législatives du 17 novembre prochain a démarré dimanche. 41 listes se sont lancées dans la conquête de l'Assemblée nationale, mais des violences ont entaché ce début de campagne d'un scrutin aux grands enjeux, surtout pour le pouvoir. De Dakar, Johnson Wani.
La campagne électorale pour les législatives du 17 novembre prochain au Sénégal fait parler d'elle plus pour les violences que pour la forte mobilisation des électeurs. Dans la nuit de dimanche à lundi, le siège de Tahaou Sénégal, formation membre de la coalition de l'opposition Sam Sakadou, a été incendié par des inconnus. Le maire de Dakar, Barthélémy Gaz, qui en est la tête de liste, prévient. Nous n'incitons personne à faire quoi que ce soit, ne provoquer aucune coalition qu'on croisera pendant la campagne. Si on vous provoque, ne répondez pas. Mais si vous êtes attaqué, vous devez vous défendre. Un peu plus tôt, la tête de liste de Dakar du PASTEF au pouvoir avait suscité l'indignation en demandant à ses partisans de venir armés après l'attaque de son convoi, Abbas Fall. Je le dis et je prends mes responsabilités, que chacun amène demain une arme en venant. Lorsque je dis arme, je fais allusion au couteau, coupe-coupe, etc. Il a ensuite présenté ses excuses. Le ministère de l'Intérieur a appelé les acteurs politiques à l'apaisement. Pendant ce temps, les discours musclés et les provocations se multiplient entre le pouvoir et l'opposition. Alors qu'une caravane de PASTEF au pouvoir sillonne le fief du maire de Dakar, Babacar Gueye jubile déjà.
Quand une personne se dit patriote et se dit propriétaire de Dakar, alors que même à Baobab, il n'y a pas un partisan de Barthélémy qui sort, nous on s'est dit convaincus qu'on aura 165 députés. Maximum, minimum 150.
Du côté de l'opposition, on se prépare à une bataille sans merci dans l'objectif d'imposer pour la première fois la cohabitation au pouvoir. Pape Djibril Fall, candidat de l'opposition.
L'opposition sénégalaise
doit gagner le 17 novembre pour permettre au Sénégal d'avoir enfin un président de la République bien installé dans son fauteuil. La meilleure manière de rendre service aujourd'hui à Bassirou Diomaye Faye, c'est de gagner les élections et d'imposer la cohabitation pour redresser le pays. 41 listes sont en lice dans cette campagne électorale pour la conquête des 165 sièges de l'Assemblée nationale. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Face à la résurgence des victimes d'accidents vasculaires cérébraux au Gabon, la Société nationale de neurologie organise en collaboration avec plusieurs ONG de lutte contre les AVC une série d'activités pour sensibiliser sur la pathologie. Les malades et les victimes d'AVC ont pris le week-end dernier pour partager leur expérience personnelle. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangenze.
La cinquantaine révolue, Aimé Delia a vécu en 2011 l'une des formes les plus graves d'AVC. Elle est sortie de cette expérience terrifiante pour sensibiliser sur la maladie.
En 2011, aujourd'hui on est en 2024, et j'ai traversé beaucoup de choses. J'avais perdu la mémoire, je ne m'asseyais pas, je ne parlais plus. J'ai tout refait comme un enfant. J'ai appris à manger, à m'asseoir d'abord, essayer de me lever, essayer de faire un pas. L'AVC, c'est dur.
Un témoignage parmi tant d'autres sur la liste des victimes du tueur silencieux. Selon les spécialistes, les AVC sont des affections très graves puisqu'un quart des patients perdent la vie. André Kossi, un autre miraculé, aujourd'hui en pleine rééducation.
Le soir à la maison, je me suis couché autour de 23h30, 14h, 24h comme ça, et j'avais envie d'aller me soulager. C'est là quand je veux me lever, je tombe. Je sens un poids sur un côté. Je sens un gros poids sur un côté. Quand je veux me tenir debout, j'ai tendance à aller ce côté-là. Et comme si
de la blague. Je me posais la question, mais c'est pas ce qu'on appelle Avetela qui m'arrive. Dès que le lendemain matin, très tôt qu'on est venu m'amener aux urgences d'Akanda.
André a été très vite pris en charge par l'unité neurovasculaire du centre hospitalier universitaire de Libreville. Une bonne nouvelle pour le Gabon qui a longtemps évacué ses malades à l'étranger. Docteur Annick Sunda, neurologue au CHU de Libreville.
Dès que les premiers signes apparaissent, il faut se rendre immédiatement au centre hospitalier universitaire de Libreville, où il existe une unité neurovasculaire qui est chargée de la prise en charge de l'AVC à la phase aiguë. Donc il faut arriver très vite, c'est-à-dire dans un délai de moins de 4 heures.
En 2005, la prévalence de l'AVC au Gabon se situe autour de 46%. Une étude réévaluée en 2022 fait état d'une progression de la maladie estimée à plus de 66% de victimes. Parmi les facteurs à risque, l'hypertension et le diabète, d'après Dr Annick Sunda.
Lorsqu'on souffre de ces pathologies, il faut les prendre en charge correctement. Maintenant, il y a d'autres facteurs de risque, tels que la sédentarité.
Une intense activité sportive peut réduire les risques d'AVC, affirme la neurologue. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Vous suivez VOA Afrique, à présent la Minute Éco avec Rosine Monizero.
L'opérateur marocain Panafsat et Thales Alenia Space ont annoncé mardi un accord pour fournir une connexion Internet haut débit par satellite à 26 pays, dont 23 francophones, adressant une population de plus de 550 millions d'habitants répartis sur une superficie de 12 millions de kilomètres carrés, indiquent les entreprises. Les pays du Sud global sont confrontés à des défis de plus en plus importants pour naviguer dans une économie mondiale moins dynamique, relève l'ONU mardi, qui appelle à repenser les stratégies de développement. Selon ce nouveau rapport, une croissance faible, un endettement élevé et une faiblesse de l'investissement et du commerce exacerbent les fractures économiques entre pays industrialisés et ceux en développement. La Banque mondiale s'attend à une chute du prix des matières premières à un niveau inédit depuis 5 ans. La surabondance attendue de pétrole est tellement importante qu'elle devrait limiter les effets sur les prix d'un conflit encore plus étendu au Moyen-Orient, ajoute la Banque mondiale.
Place maintenant au sport avec Nanik Talani. Bonsoir Nanik.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
On revient sur cette polémique qui s'intensifie après le sac de Rodri face à Vinicius Junior au Ballon d'Or.
Alors que le Brésilien Vinicius Junior était largement attendu comme le Ballon d'Or 2024, c'est finalement Rodri, le milieu de terrain espagnol, qui a été couronné, suscitant une onde de choc dans le monde du football. Les supporters de Vinicius, notamment ceux du Real Madrid, ont exprimé leur indignation, arguant que les performances exceptionnelles du joueur en Liga et en Ligue des Champions auraient dû lui garantir le titre. Le président du Real, Florentino Pérez, a d'ailleurs décidé de boycotter la cérémonie, dénonçant une manigance orchestrée par l'UEFA. Selon les analystes, plusieurs éléments expliquent ce retournement de situation. Tout d'abord, la concurrence au sein de l'équipe du Real Madrid a fragmenté les votes, notamment entre Vinicius et son coéquipier Jude Bellingham. Ensuite, la Copa América décevante de Vinicius a joué en sa défaveur, alors que Rodri a brillé en étant élu MVP de l'Euro. En outre, sur le terrain, Vinicius a souvent été critiqué pour ses gestes provocateurs et ses contestations envers les arbitres, ce qui contraste avec l'exemplarité de Rodri, perçu comme un modèle de fair play.
Championnat féminin de la COSAFA, la Zambie écrase les Comores et file en demi-finale.
Les Copper Queens de Zambie ont réalisé une victoire écrasante de 7-0 contre les Comores, ce qui les qualifie pour les demi-finales du championnat féminin de la COSAFA. La défenseur comorienne Nasrin a été expulsée avec un carton rouge pour une faute. Réduite à seulement 10, les Comoriennes ont eu du mal à contenir les attaques de l'équipe zambienne, dont la joueuse Frida Mukoma a réalisé un triplé, affaiblissant davantage le moral de la défense comorienne. Les Zambiennes ont ainsi assuré leur place en demi-finale du tournoi.
Page d'espoir VOA Afrique signée Nani Talani. Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin, Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.